Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc, Bouffon ? À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
Le bouillon, quand j'étais petit, était complètement associé au surveillant du petit Nicolas dessiné par Sempé. Il était surnommé comme ça à cause de ses gros yeux, gros comme les yeux qui flottent à la surface d'un bouillon. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un épisode sur le bouillon, et pour être honnête, on galérait un peu parce qu'on savait pas par où commencer. On dirait pas comme ça, mais il y en a à dire sur le bouillon. C'est pas un simple liquide jaunâtre avec des bulles de gras qui flottent à la surface, c'est bien plus que ça. C'est d'abord un lieu qui a presque été précurseur des restaurants qu'on connaît. C'est aussi une base cruciale de la cuisine française. Il est dans les sauces, il est dans les soupes, c'est le liant, celui qui va rassembler tous les goûts. Il est aussi présent dans plein de cuisines dans le monde, comme ça de tête je pense à l'Asie avec les soupes de ravioli ou les ramen. Et puis c'est aussi un truc qu'on boit pour casser la croûte ou manger léger. Enfin, je dis ça, comme si je l'avais toujours fait ou toujours su, mais pour être aussi transparent avec vous qu'un bouillon clair, je ne savais pas qu'autant de gens buvaient des bols de bouillon comme ça sans rien avant de préparer cet épisode. Et donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va anoblir le bouillon en première partie avant de montrer qu'il est un objet de discorde en seconde. Le cubor, qu'on connaît tous, est au centre de ce qu'on pourrait appeler une polémique, voire même un scandale sanitaire en Afrique. Il est énormément consommé sur le continent, au grand dam des médecins et des chefs, comme par exemple Christian Abegan, qui est venu nous raconter tout ça en deuxième partie.
Qu'un cube ait la dose de sel et d'arôme nécessaire, il faut qu'elle soit surchargée en sel. Déjà, c'est déjà deux fois plus de sel avec tous ces problèmes d'hypertension qui après arrivent sur l'espérance de vie qui est beaucoup plus courte. D'abord, à cause de ce qu'on met dans l'assiette.
Mais pour commencer et rendre hommage au bouillon, on a invité deux amis que la cuisine a réunis, puis le projet de faire des bouillons à boire qui seraient vendus tout près dans le commerce. C'est ainsi qu'est née Bu, une marque toute neuve, une gamme de bouillons salés, sucrés d'hiver ou d'été qu'on pourrait manger et boire comme ça. Et vous imaginez bien donc que pour parler bouillon, Samuel et Sébastien, les créateurs, étaient les invités idéaux.
J'ai des images, effectivement, le bouillon de pot-au-feu. Moi, j'ai effectivement le lendemain où tout d'un coup, en entrée de repas, on a le bol avec le petit bouillon. Ou alors, quand c'est, ça peut être un bouillon de légumes. Moi, j'avais pas forcément cette pratique de la boisson, mais en fait, je m'y suis très vite mis parce que, comme je le disais avant qu'on démarre, notre rencontre, c'est du pur hasard et elle aurait pu ne jamais avoir lieu parce que c'est quelqu'un qui nous a fait nous rencontrer. Ça s'est pas fait, puis ça s'est fait. Et puis, on a parlé du bouillon sur les cinq dernières minutes de notre café. Et voilà, mais... Ce hasard, en fait, Sébastien m'a parlé de ce souvenir, puis de ce qu'il faisait, puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me rappelle des trucs. Et puis, en même temps, du coup, par curiosité, je me suis un peu renseigné, je me suis rendu compte que c'est un produit qui a une histoire fabuleuse, et on y reviendra sûrement, c'est un produit qui a des qualités diététiques, nutritionnelles, géniales, et puis surtout qui est super bon. Et Sébastien m'avait invité à essayer, donc on avait fait un petit truc comme ça. Et puis, c'est sûr que, en tout cas, pour répondre à la première question, il n'y a pas cette culture, effectivement, du bouillon-boisson ou du bouillon présent dans la cuisine, dans le plat. Parce qu'il est présent en cuisine, on y reviendra sûrement, mais dans le plat, c'est assez rare, c'est surtout dans les restaurants, notamment japonais, à Paris, en tout cas. Et c'est vrai que quand on a ça... Je pense que la raison pour laquelle les gens aiment bien manger des ramen, des boboons, etc., c'est qu'il y a ce bouillon chaud qui fait du bien, qui est fluide, qui est léger, c'est super parfumé. Et effectivement, nous, au début, on s'est posé plein de questions. On s'est dit, mais est-ce que l'usage qu'on en fait va être suffisamment répandu? Et on ne va pas se mentir, hein, on n'arrive pas avec un jus de fruits où les gens savent comment ça marche, quoi. Et les gens ne boiront jamais, probablement, peut-être qu'on va y arriver, mais jamais autant de jus de fruits qu'ils boiront de bouillon demain. Mais un des premiers trucs qu'on a fait, c'est qu'on est allé, on a été assez pragmatique et terre à terre. On est allé devant la sortie d'un fast-food de qualité quand même, mais plutôt d'un endroit où on va manger le midi rapidement, etc. Et on a interrogé les gens, on a dit le bouillon, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et on a eu pas mal de gens étonnamment, plutôt des femmes d'ailleurs, qui nous ont dit « Mais moi, le bouillon, mais je m'en fais minimum un par semaine. »
C'est ce que j'allais te demander.
Et je le mets dans un cup, là, enfin, dans un mug, et je le bois le soir. Ce qui, pour moi, était un usage un peu ovniesque de Sébastien et auquel je m'étais converti. Mais on a trouvé des gens. Et on s'est dit « Mais là, cette personne-là, on est tombé dessus par hasard. » Mais donc, statistiquement, il y en a plein comme elle. Et puis, il se trouve qu'en plus de ça, et Sébastien n'avait pas manqué de me le raconter, parce que c'est lui la vigie des deux. Hein. Moi, je suis plutôt... je besogne un peu. Lui, il voit peut-être plus loin. Mais il avait repéré qu'aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, il y avait pas mal de trucs autour du bouillon. Il y avait des bars à bouillon qui ouvraient à New York, à Portland, en Californie. Et que les gens, justement, il y avait même des coursiers qui, le matin, plutôt que de prendre un café sur leur vélo, arrivaient et attrapaient un cup de bouillon. On s'est dit, mais attends, c'est dingue, ce truc. Donc, voilà, l'usage, c'est très culturel, en fait. Donc, c'est dur de faire changer une culture, mais il y a 10 ans, on n'avait jamais entendu parler de smoothie. Le burger, il y a 15 ans, c'était chez McDo. Donc, les choses évoluent et voilà, notre pari, c'est de créer un nouveau truc, quoi.
Alors, Sébastien, c'est quoi un bouillon par rapport à une soupe, par rapport à un jus, par rapport à un velouté? Comment on définirait, dans les grandes lignes, ce que c'est un bouillon?
Dans les grandes lignes, déjà c'est un comment dire, c'est une extraction en fait de
c'est une cuisson.
Enfin, c'est une cuisson, pardon, ouais. Mais une cuisson qui permet d'extraire voilà. Justement les arômes et les saveurs. Heureusement, c'est lui aussi, il est là pour
te recadrer.
Ouais, de manière en fait. Peut-être, déjà c'est cuisiné. Voilà, le premier truc c'est vraiment ça. Ouais. C'est-à-dire que contrairement à un jus, là il y a quand même effectivement cette cuisson et puis la pâte du cuisinier qui va faire que, j'allais dire le, il va y avoir une alchimie entre les différents ingrédients qui va pas être juste différentes couches de d'arômes, mais qui va créer quelque chose de plus riche en fait en termes de saveurs et donc voilà, pour moi il y a à la fois de la délicatesse et de la puissance en termes de ce que je ne trouve pas par exemple il y a des jus de légumes dans les soupes c'est encore autre chose parce que la soupe enfin telle que je la fais telle que je la connais il y a de la cuisson mais on mixe tout.
C'est le bouillon, il n'y a pas de mixage.
Alors non, il n'y a pas de mixage. Justement, c'est quand je dis extraction, c'est aussi parce qu'on va... On ne récupère que la partie liquide. Le bouillon, c'est justement cet élixir qui va concentrer toutes les saveurs des matières premières utilisées, enfin des ingrédients. Et effectivement, c'est un produit totalement liquide, très très léger.
Tu parlais de l'histoire, Samuel, du bouillon, tu disais qu'elle était particulière. Tu pensais à quoi?
Globalement, je crois que c'est en 1764 ou 65. Il y a un certain monsieur Boulanger qui a ouvert en fait un établissement. Enfin, un établissement, c'est un bien grand mot, mais qui a inventé un concept qui s'appelait, qui n'avait pas vraiment de nom, mais dans lequel il proposait des bouillons restaurants. Et dans le restaurant, dans le sens du le participe présent du verbe restaurer, donc qui restaure, donc qui remplit, qui réconforte, qui nourrit. Et ce monsieur Boulanger, en fait, il a un peu cassé, il était disruptif, ou il a ubérisé le métier de traiteur et de rôtisseur. Enfin, en gros, il y avait je trouve pas le mot, mais il y avait des métiers qui étaient validés par la couronne, on pouvait être rôtisseur ou traiteur, etc. Et chacun, c'était très réglementé, et lui est arrivé en proposant quelque chose de nouveau, et notamment, c'était un lieu dans lequel il proposait donc des bouillons dans lesquels il devait y avoir des choses à manger. Hein. J'ai pas plus d'infos que ça, mais et c'était des choses très restaurantes, avec de la viande, peut-être un peu gras, etc. Et c'était vraiment un endroit pour populaire, où en fait on venait manger pour pas cher, et c'est assez roboratif, en tout cas c'était nourrissant. Et ce bouillon restaurant a fait des émules, il y en a eu un deuxième, un troisième, etc. Puis finalement ils ont disparu, sauf certains qui restent encore aujourd'hui. Donc, il y a le bouillon Racine, il y a le bouillon Chartier à Paris, il y a le bouillon, je crois que c'est Julien, qui est rue du Faubourg-Saint-Denis. Mais ces endroits, aujourd'hui, ils sont un peu... Il y a le bouillon Pigalle qui vient d'ouvrir. Et d'ailleurs, le bouillon Pigalle, il reprend un peu la tradition de ce lieu où on mange pour pas cher. Je crois que, je sais pas, là-bas, il y a un bouillon de pot-au-feu à 2 euros ou 2,50 euros, un poireau vinaigrette. Enfin, c'est vraiment la cuisine populaire, mais bien faite. Mais c'était des restaurants un peu... assez populaire, dans lequel on trouvait souvent des clodos qui venaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient manger pour pas grand-chose, etc. Mais il a créé un lieu dans lequel il y a un menu fixe, on sait ce qu'on va manger, et pour une somme, etc. Et ça, en fait, ça n'existait pas. Alors, finalement, Bouillon a disparu, et Restaurant, qui voulait dire juste se restaurer, est resté, et c'est devenu un nom commun, et on va au restaurant, parce que ça définit le lieu où on a un menu, un truc avec des choix, et puis un prix en face, et puis on dit machin, il y a une assiette, un couvert, etc. Ce qui n'existait pas. Donc le Bouillon, c'est ça son origine, c'est à l'origine du restaurant, et puis finalement, le Bouillon, qui était le plat à l'origine, hein, ce liquide, lui, il a perduré, mais en cuisine. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que... Dans les grands restaurants aujourd'hui, il y a un poste, dans les restaurants gastronomiques, quand il y a de la place, quand il y a l'équipement et le personnel nécessaire, il y a un poste qui est un poste de saucier, où le type, il arrive le lundi matin et il commence ses bouillons pour la semaine. Et donc, il va faire finalement des bouillons qui va ensuite faire réduire pour en faire des fonds ou qui va utiliser tel quel pour aromatiser finalement d'autres ingrédients qu'il va faire cuire dedans ou qu'il va mouiller avec. Donc, il va braiser une viande avec, il va aromatiser des légumes, pocher un poisson, etc. Et en fait, ça, c'est le secret de... Et en tout cas, ce qu'a fait la renommée de la gastronomie française dans le monde. La gastronomie française dans le monde, au-delà du fait qu'elle est très variée, qu'il y a plein de régions, qu'on maîtrise de l'entrée jusqu'à la pâtisserie très élaborée, etc., c'est les sauces et les assaisonnements. La vinaigrette, c'est un truc hyper français. Bah, les vinaigrettes, il y en a, je ne sais pas combien de variétés, mais c'est un truc qui... En fait, une salade, il n'y a pas de vinaigrette. Vous avez un assemblage de légumes et peut-être de viande ou de poisson, machin, mais il n'y a pas de liant. Le liant dont parlait Sébastien tout à l'heure, sans faire une comparaison avec le bouillon, c'est... Enfin, une comparaison trop directe, c'est vraiment ce qui va justement faire passer de l'assemblage à la construction. Et là, le bouillon, c'est ce qui permet dans les plats de créer ces sauces et de créer justement une structure aromatique qui est assez unique. Et alors, c'est pas typiquement français, hein, parce que les bouillons, on a parlé des bouillons asiatiques, il y en a plein, mais le minestrone en Italie, c'est un bouillon. Et en fait, le bouillon, finalement, si on regarde les choses un peu avec de la hauteur, c'est des éléments solides qu'on met dans un élément liquide et qu'on fait cuire. Mais globalement, ça existe dans à peu près toutes les sociétés, toutes les cultures, parce que l'homme, il a été un peu bête, et puis il a mis les trucs, la marmite, bim, clac, clac, il fait cuire, donc il y a des bouillons partout. Mais le vrai bouillon, tel que nous, on l'imaginait, c'est un peu plus élaboré que ça, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, ce qu'on a trouvé génial aussi, c'est de pouvoir justement visiter plein de cultures, parce que on parlait du gazpacho tout à l'heure, le gazpacho, c'est typiquement andalou, mais nous, on l'a revisité comme un bouillon. Mais demain, je ne sais pas, on peut trouver une recette mexicaine, un chili con carne en bouillon, peut-être que ça existe, ou peut-être qu'on pourrait le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Mais, mais ça pourrait être une très bonne idée, parce que ça permettrait d'avoir le goût du chili con carne sans avoir la lourdeur du chili con carne. Et quand j'écoutais Sébastien parler tout à l'heure, je me suis dit, en fait, ce qui est aussi génial dans le bouillon, il faut vraiment m'arrêter. Parce
non,
que
vas-y, vas-y, t'inquiète.
Mais ce qui est génial dans le bouillon, c'est que là, on a pas mal discuté récemment avec des cavistes et en toute humilité, parce que c'est pas le même travail que le vin et que franchement, on fait de la dinette, hein, donc c'est encore et voilà. Mais c'est comme si en fait on retirait l'alcool du vin, mais qu'on gardait la richesse aromatique quelque part. C'est-à-dire qu'on pourrait en boire plein sans que ça ait un effet néfaste. Le bouillon, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est super léger, donc on peut en boire toute la journée. Et en même temps, il y a une richesse aromatique qui est super intéressante. Vous ne pouvez pas faire ça avec de la soupe parce que votre estomac il va exploser. Vous ne pouvez pas faire ça avec des jus et des smoothies parce que c'est hyper sucré. Et globalement, c'est bien d'en boire un par jour, mais le ministère de la Santé dit attention, pas plus d'un, parce que sinon vous allez avoir un apport en sucre qui est beaucoup trop important. Donc vous allez avoir des vitamines et ça, c'est vraiment bien. Mais plus d'un, faites gaffe.
Le comme bouillon, il n'y a que des bonnes choses dans le bouillon.
Et puis le bouillon, tu peux en boire autant que tu veux.
Enfin, là, il n'y a pas de...
C'est de l'eau et des bons légumes. Enfin, c'est une eau aromatisée, pour vraiment schématiser, pour dire plus au niveau des risques que du goût.
Ouais,
et
pour schématiser, c'est effectivement, c'est de l'eau. Alors nous, on ne fait que des légumes. On ne fait pas de produits carnés ou de la mer.
C'est un choix, ça.
C'est un choix qui est à la fois... c'est la conjonction, je dirais, d'une réalité économique... d'une envie de faire complètement différent et en même temps je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. La réalité économique c'est que en fait pour faire un bouillon de viande bah faut de la viande et contrairement à ce que les gens pensent pour faire un bouillon faut pas trois épluchures, un bout de gras et un os. Quand on fait un bouillon de poule faut une poule voire deux voire trois parce que c'est ce qui va vraiment donner
du goût. Je vous dis pas un pot-au-feu quoi, faut le bœuf.
Ouais. Voilà, un vrai pot-au-feu. Non mais donc en gros il y a une certaine quantité de matière et la viande en fait une fois qu'elle est cuite, elle est délicieuse, elle est hyper parfumée parce qu'elle a pris tous les arômes et elle en a donné aussi. Mais du coup nous si on voulait le faire, il faudrait qu'on puisse vendre la viande mais sauf qu'on on n'est pas capable de le faire aujourd'hui, peut-être que demain on le fera et on a des super bonnes recettes de pot-au-feu, de poule à la taille, enfin c'est divin, mais voilà, donc ça c'est une réalité économique. La deuxième, le deuxième élément, c'est qu'on s'est dit, allez, on fait du bouillon, et le bouillon, dans la tête des gens, c'est effectivement le cube, le petit truc en sachet, etc. Donc, faut qu'on dépoussière tout ça, c'est pas possible que ce produit qui a une telle histoire, qui est si merveilleux en goût et en nutritionnellement parlant, qu'on en fasse un truc un peu lambda. Donc, on va le dépoussiérer vraiment. Et pour le dépoussiérer, on s'est dit, les gens, ils nous parlent. Dès qu'on leur parle bouillon, ils nous disent, ah oui, le pot-au-feu, la poule au... Non, on va faire des légumes. Et puis, troisième élément, c'est que on sait que un des enjeux de l'alimentation, et là, c'est à l'échelle de la planète, hein, c'est pas nous au quotidien, etc., mais c'est de manger moins de viande, d'en manger deux, trois fois par semaine maximum. Donc, il faut qu'on commence déjà. Alors, il n'y a pas d'acte militant, on n'est pas là, machin, mais on s'est dit, finalement, ça a du sens aussi par rapport à l'évolution dans laquelle on est. Donc, allons-y.
Et puis, je rajouterai aussi un petit point.
C'est
c'est que, effectivement, ce qui donne du goût au bouillon tel qu'on le connaît quand on parle de pot-au-feu, justement, c'est le gras. Et souvent, le bouillon de légumes, c'est... Voilà, ça reste un petit peu plus fade ou un peu moins puissant. Et donc, il y avait ce petit défi et que Eric, notre chef, a relevé. Justement, on a essayé de trouver une variété de recettes, mais qui ont vraiment, encore une fois, ce goût et cette richesse. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des légumes et des plantes aromatiques, des épices. Et on est parvenu à créer une palette comme ça de couleurs, de sensations, de goûts, juste en travaillant le végétal. Et
comment on le remplace, le gras?
Alors, on le remplace... On remplace pas toujours, on en met un peu. Par exemple, c'est vrai que dans certaines recettes, on utilise par exemple un peu d'huile d'olive, mais c'est pas quelque chose qu'on intègre dans le bouillon, c'est plutôt une manière de cuisiner justement les légumes avant de les mettre dans le liquide, en fait, avant de les faire cuire. Donc, c'est plutôt une sorte d'enrobage, mais ça va justement développer des arômes. Ou alors, puisqu'on a travaillé, il y a quelques recettes qui utilisent ça, on travaille avec le lait de coco, par exemple.
Okay.
Le lait de coco qui, lui, va apporter justement une quantité de matière
mais ça reste très 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 peu gras hein. C'est quand on parlait de légèreté nous quand on a
parlons chiffres
oui c'est voilà. Merci quand on enfin les gens ils ont en tête le fait que le bouillon c'est sain en fait. Et ça, qui que ce soit qu'on ait pu interroger, nous ont dit bah, ah oui, le bouillon, ça fait du bien. Voilà. Alors, ça fait du bien parce que l'hiver, on est malade, ça fait du bien parce que ça réchauffe. Jamais. Globalement, on ne dit pas c'est pas le burger. Ou, voilà. Globalement, le bouillon, ça fait du bien. Mais on n'avait pas vraiment de fait scientifique derrière. Et puis, c'est en faisant nos recettes, nous, pareil, on ne s'est pas dit, tiens, on va mettre 4 grammes de carottes et seulement 15 millilitres d'huile d'olive parce qu'il ne faut pas que ce soit gras. Ça, on n'y a même pas pensé. On s'est juste dit, il faut que ce soit bon. Parce que nous, notre point de départ, et je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, on avait des... Et c'est quand même la base de la bouffe, hein, de la gastronomie, pardon. Mais c'est que le produit, il faut qu'il soit bon. Il faut qu'on ait envie d'en manger. Il faut qu'il fasse plaisir immédiatement. Faut qu'on... Et pour nous, parce que ça nous intéresse, il faut que les gens aient envie d'en racheter. Mais le vrai truc, c'est... Enfin, c'est un truc... C'est probablement un des rares éléments. Ce qu'on ingurgite doit provoquer un plaisir immédiat ou sinon, va pas nous satisfaire. Donc, quand on mange bien, on est heureux tout de suite. Et il y a un truc, c'est assez dingue d'ailleurs, les connexions et les synapses qui se mettent en route, mais c'est fou. Et donc, nous, on s'est vraiment dit, il faut que ce soit bon. Donc, on a fait des recettes en se disant, il faut que ce soit bon et on triche pas. On veut faire un bouillon, un vrai bouillon à l'ancienne, mais avec des recettes un peu modernisées, etc.
Vous voulez faire le meilleur bouillon du monde. Hein. Non, c'est vrai. Voilà. On se le disait pour se motiver le matin. On dit, on va faire
Allez,
le meilleur.
On s'arrête pas. Tous les gens qui nous disent ça marchera pas, machin. Et on s'arrête pas. On fera les meilleurs bouillons du monde. Et mais du coup, on a fait nos recettes.
Ouais.
Et à la fin, bah, faut bien faire des étiquettes pour les mettre sur les bouteilles. Et sur les étiquettes, faut bien qu'il y ait une analyse nutritionnelle. Donc, on a fait des analyses nutritionnelles. Et là, il se trouve que on a les résultats et. Il n'y a pas de calories, il y a très très peu de matière grasse, il y a très peu de sel, enfin, c'est génial. Et quand on compare ça à nos amis, là du coup pour le coup un peu poussiéreux, même si on va se faire des ennemis, les cubes, etc., ce que vous avez comme premier ingrédient, c'est du sel et de la matière grasse. Ce n'est pas nos premiers ingrédients. Hein.
Cette transition était parfaite pour la deuxième partie où on va justement parler d'un bouillon qui contient beaucoup trop de sel et de sucre. Mais juste avant, simplement dire que pour savoir où trouver Bu, rendez-vous sur le site bubouillon.fr. Alors c'est pas encore méga répandu, ne nous reprochez pas de parler que de trucs vendus à Paris. C'est une marque toute jeune qui vient à peine de voir le jour. Mais pour avoir goûté au fil de l'interview les bouillons de chez Bu, ils sont vraiment si délicieux qu'ils vont sans nul doute inonder la France très bientôt. Et maintenant, j'enfile mon costume d'Élise Lucet et parlons de la face sombre du bouillon. Le bouillon cube. Inventé à la fin du 19e siècle par Julius Maggi, il est au départ vu comme un progrès immense qui allait faciliter la vie des ménagères et qui allait leur faire économiser du temps en cuisine. Au départ, fait à partir d'ingrédients naturels, il s'est industrialisé avec tout ce que ça implique de trucs pas ouf ouf dedans. Et en parallèle de ça, il a colonisé un continent, l'Afrique. Le bouillon cube a envahi toutes les cuisines et les marchés africains. Les gens en mangent trop, beaucoup trop. Déjà qu'un peu de se concentrer de goût tout chimique, c'est pas terrible, vous allez voir. Mais imaginez qu'à forte dose, c'est un vrai problème de santé publique. La folie du cubor envahit même des secteurs hors cuisine, puisqu'il paraîtrait qu'il est utilisé en suppositoire et que cette utilisation ferait grossir les fesses. Mais bon, ça c'est une info qu'on a trouvée sur internet, donc on lui accorde le crédit qu'elle mérite et on vous laissera chercher vous-même. En attendant, on va reparler cuisine avec le chef et chercheur camerounais Christian Abegan, qui a beaucoup écrit sur la cuisine africaine et qui ne se prive pas de dire tout ce qu'il pense du problème des cubes. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un épisode vindicatif et énervé, mais plus une ode au fait de prendre son temps, de s'appliquer à cuisiner et de faire honneur aux produits naturels.
Hors de la connaissance de ce que c'est que la cuisine et des saveurs premières des produits, à partir du moment où, pour moi, on ajoute un élément qui est chimique, parce que c'est ce que c'est, on perd la nomenclature de la qualité gustative des plats.
Justement, vous parlez de cuisine et de saveurs, et on va revenir un petit peu sur votre parcours. Quand est-ce que vous avez votre premier souvenir de cuisine, d'envie de vous mettre au fourneau, de faire des plats?
Oui, c'était une cuisinière qui était chez nous, qui cuisinait, et puis c'était les odeurs, les parfums. Quand on rentrait de l'école, on avait cette capacité de sentir. Même quand on était dans la maison, on sentait que c'était l'heure du repas, parce que les tubercules, les racines comme c'est les ignames et tout, etc., qui sont comme des pommes de terre, quand elles cuisent, pour certaines, elles avaient un parfum particulier. La patate douce violette aussi avait un parfum particulier, le riz. Et c'était quand même moi, j'ai grandi donc en Afrique, donc on est juxtaposé sous 30 degrés de chaleur. On a toujours ces parfums quand même qui rafraîchissent. C'est comme l'odeur de la terre mouillée quand il pleut après 30 degrés de chaleur. Mais moi, c'était ces parfums qui... Je savais qu'il fallait manger, et puis ça changeait l'environnement de la maison et puis l'environnement tout court pour moi.
Et c'est quand est-ce que vous vous souvenez du premier plat que vous avez cuisiné ou des premiers plats que vous avez essayé de faire
Oui, il y en avait des tas. Moi, j'étais souvent dans la cuisine. Hein. J'étais souvent dans la cuisine à aider, à regarder, aux grandes dames de mes parents, parce que mon père pensait qu'il fallait qu'il fasse un avocat, donc. C'était pas pour l'Afrique encore, et dans certains pays, c'est quand même un métier qui n'est pas réservé aux hommes, d'un, et puis qui n'est peut-être pas valorisant pour certains, parce qu'on se dit que bon, la cuisiner, c'est comme aller ranger un placard, donc forcément, on comprend pas la symbolique de ce métier, en fait, encore. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me laissaient regarder, mais pas trop, en fait.
Et du coup, vous avez étudié en France?
Oui.
Au Cordon Bleu?
Oui.
Et après, une fois que vous avez fini vos études, vous avez ouvert votre premier restaurant en Afrique, c'est ça?
Oui, à Douala. Donc, je voulais surtout parfaire des travaux de recherche parce que j'avais une dichotomie de comparaison parce que, évidemment, à Cordon Bleu, on avait une association de produits sur des recettes traditionnelles. Donc, et puis, tout de suite, je me disais, mais je changeais les produits tout de suite qui étaient sur. J'ai dit, bon, on peut faire ça avec ça.
Et puis, pour des produits traditionnels français par des produits traditionnels africains.
Ouais. Et puis voilà, et je trouvais que c'était comme ça qu'on pouvait faire avancer et développer donc une cuisine tout en gardant des strates de l'organisation des saveurs et puis des volumes et voilà. Même tout en respectant aussi la traditionnalité culinaire. Donc, tout ce travail d'alchimie visuelle, gustative et tout, etc. J'avais besoin de partir sur le Cameroun pour faire cela pendant quelques années. Et je pense que ça a été quand même, pas un choc, mais une découverte pour beaucoup de Camerounais qui comprenaient pas qu'on pouvait pas transformer, j'aime pas trop le mot transformer, aménager leur cuisine, qui soit plus digeste, plus légère, plus avant-gardiste. Et sans parler de tous ces phénomènes de fusion qui sont pas inhérents à une continuité culturelle.
J'ai même lu que vous faisiez de la charcuterie de porc épic, non, c'est ça?
Oui.
C'est un truc qui existait avant, c'est quelque chose que vous avez ramené?
Non, ça n'existait pas, parce que en apprenant, parce que j'ai fait l'école de charcuterie dans le 12e arrondissement à Paris. C'est en regardant comment est-ce qu'on faisait une terrine de faisan, une terrine de sanglier. Et puis l'avantage, parce que c'est en Afrique, c'est que le gibier qu'on a, c'est du gibier qui a des feuilles vertes toute l'année. Donc la chair n'est pas aussi dense que de chevreuil qu'on a en Europe, ici qu'il y a des intersaisons où il y a pas de feuilles, il faut qu'ils mangent des racines, des ronces, de noyer, des choses comme ça. Mais nous, le gibier, c'est une finesse rare. Parce qu'ils ont des pousses de bambou, des pousses ont des graines. Dans cette jungle luxuriante, ils mangent. La viande est vraiment, elle est aussi douce que du lapin, hein, passe pour certains.
C'est pour ça que vous avez bien réussi à appréhender justement toutes les saveurs de l'Afrique et peut-être celles qui n'étaient pas forcément utilisées. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous chagrine de voir que des gens utilisent des cubes pour se simplifier la vie.
Simplement, philosophiquement, en fait, je pense que une continuité culturelle est nécessaire pour les générations futures. L'Afrique reste quand même le berceau de l'humanité. Donc, nous avons eu la possibilité que même malgré le triste commerce des esclaves, que des populations aient pu être transportées d'un continent à un autre avec ce qui pouvait être des traversiers et tout, et arriver vivante là-bas avec ce qu'ils mangeaient. On avait déjà une pharmacopée alimentaire, les produits étaient des produits quand même très très sains. Pour pérenniser cette tradition culinaire, c'est très important. La mondialisation a apporté trop de nouveaux produits sur le continent et crée des produits aussi d'adaptation qui sont des produits des fois nocifs. On a l'obésité morbide déjà en Afrique alors qu'on n'avait pas ça. Donc tout ce qui a trait à ce qui est chimique me dérange forcément pour la pérennité d'une tradition culinaire. Donc quand on met un produit chimique dans une cuisine, dans une recette, la recette n'est plus normale. C'est évident. Parce que pour qu'un cube ait la dose de sel, d'arôme nécessaire, il faut qu'elle soit surchargée en sel. Déjà, c'est déjà deux fois plus de sel avec tous ces problèmes d'hypertension qui, après, arrivent sur l'espérance de vie qui est beaucoup plus courte. D'abord, à cause de ce qu'on met dans l'assiette. Hein. Parce que la première ordonnance de vie, c'est ce qu'on met dans l'assiette.
Parce que c'est vrai qu'on peut rappeler ce que c'est le bouillon cube. À la base, ça a été inventé en Europe et en France pour faciliter la vie des ménagères. En gros, elles n'avaient plus besoin de faire des bouillons, elles avaient juste à mettre ce cube dans de l'eau. Et c'était vu comme un progrès, comme l'industrialisation. Et puis après, ça a été, c'est arrivé en Afrique. Et là, ça a rencontré un succès quasiment immédiat et incroyable qui fait que maintenant, tout le monde jure par ça, non?
Oui, effectivement, mais il faudrait arriver au fait que quand on a créé le bouillon cube, il n'était pas créé d'une manière chimique au départ. On créait des véritables fonds de sauce et tout, donc qu'on réduisait, qu'on déshydratait. Et évidemment, il y a des sociétés qui font des fonds de sauce ou bien des bouillons qui sont des bouillons qui sont vraiment tracés et tout, qui sont vraiment très très bien. Cette capacité de pouvoir mettre, je sais pas, dans un grand chaudron pour prendre une imagerie beaucoup plus simple, un grand chaudron des os de bœuf avec des oignons et tout, laisser cuire, prendre ce jus qui sera concentré, qu'on va laisser réduire, qu'on va déshydrater, c'est ça qu'on fait un bouillon. Les multinationales peuvent faire des vrais bouillons, mais ne pas utiliser donc tous les substrats chimiques pour les parfums et les textures et proposer des produits qui sont des produits pas bons pour la santé.
Oui, c'est parce que le vrai problème du cube, c'est pas juste la facilité, c'est qu'en fait c'est blindé de sel, c'est blindé de mauvaises choses. Et en fait,
oui, effectivement, c'est blindé de sel, c'est blindé de substances chimiques. Et ça, c'est surtout le goût que ça apporte qui annihile, si on peut parler le français comme ça, annihile les saveurs des autres éléments. Dans un plat où vous avez un plat à base de poisson et puis de riz ou je ne sais pas trop quoi, vous devez toujours avoir la quintessence de la saveur du riz, du poisson, des éléments qu'il y a dans l'assiette, dans le plat. Or, généralement, quand vous mettez donc du cube, généralement, on n'a que ce goût-là. Et comme on ne peut pas avoir quelque chose de millimétré pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre exactement pour telle quantité, donc à la bonne étoile, chacun rajoute 1, 2, 3. Et même d'autres le consomment accru maintenant.
Oui, ce que j'avais lu, ouais, des gens le mettent directement sur
du
viandes,
riz, sur des semoules de blé, des semoules de manioc, qu'ils mettent directement comme ça pour le consommer.
Et pourquoi vous pensez qu'en Afrique, ça a été autant. Ça a rencontré un tel succès et pas dans d'autres pays, et pas sur d'autres continents?
Parce que le principe de la grillade, le principe des produits grillés, donc c'est quand même assez important, de l'assaisonnement. Parce que quand il fait très très chaud, on n'a pas vraiment l'envie ou bien l'appétence de pouvoir consommer des produits qui n'ont pas de saveur. Et la concentration de saveur est nécessaire parce que ça réveille les qualités organoleptiques. Donc, c'est-à-dire que quand on mange quelque chose qui a, c'est pas d'avoir du piment, hein, mais qui soit vraiment épicé sans, c'est ce goût marqué. Et puis, la tradition est quand même sur une cuisine en général où les sauces, les viandes sont vraiment rissolées à longue. C'est vraiment des ragoûts. Donc c'est une cuisine quand même lente qui met du temps à pouvoir donner donc des sucres. Voilà. Elle est basée sur une valorisation des sucres, donc de produits qui sont donc cuits. Donc, dans l'imaginaire collectif, donc on s'est dit, voilà, le cube approche rapidement donc les sucres. Alors que pour avoir ces sucres, c'est le temps et la préparation et la recette. Donc, c'est deux choses différentes. On les a, hein, ces sucres. Quand un produit n'est pas cuit à terme, il ne vous donne pas il ne vous donne pas le rendu de la saveur qu'il puisse y avoir.
Et c'est vrai que Magie, en plus, a vraiment, qui développe le cubeur, a vraiment tout de suite repéré que l'Afrique aimait le bouillon cube et a tout de suite passé à un stade de communication un peu agressive avec vraiment... en mettant le paquet sur l'Afrique quelque part, et ce qui fait que maintenant il est partout. Je lisais qu'il y avait des maisons qui étaient peintes aux couleurs de cubeur, comme Coca-Cola peut le faire dans certains pays. Et vraiment, l'Afrique est inondée de cubes. Maintenant, il y a des fabriques directement en Afrique pour éviter de faire ça de trop loin pour eux.
Je pense, bon, les multinationales, hein, on sait très bien comment est-ce qu'elles travaillent, mais je réitère mon propos en expliquant qu'ils peuvent faire ça, mais en faisant mieux, avec des produits, oui, de qualité. Ils peuvent avoir des branches de production avec des produits de qualité. Ils peuvent le faire. Ils ont et les budgets et les structures à pouvoir le faire. C'est une volonté quand même pratique de l'entreprise de pouvoir essayer de se dire, voilà, on va faire des produits plus simples pour la. On a une recrudescence d'hypertension artérielle. Elle est terrible dans ces pays-là. Mais c'est d'abord aussi à cause de ce que les gens y mangent. Si on a un excès de gras dans un plat avec un excès de sel, bon, c'est terminé. Donc, et l'espérance de vie, elle a 50 ans, 55 ans dans certains pays. Alors que normalement, on devrait avoir 80, 85 ans, au moins 80 ans. Donc, c'est d'abord ce que les gens y mangent. Et c'est d'abord, comme ces produits-là, comment vous m'expliquez que la plupart des plats maintenant, la mayonnaise chimique est devenue un assaisonnement qu'on pose à table au quotidien? Alors que c'est, vous consommez, on vous présente un plat cuisiné normalement, à la limite, mais après on vous ajoute, que ce soit une grillade, une mayonnaise et chimique dessus. Donc, on prend des habitudes qui ne sont pas des habitudes saines de vie. Donc, c'est extrêmement dangereux pour l'organisme et pour la santé publique, en fait.
Oui, ça, cette histoire de Cubor, qu'elle soit d'ailleurs en Afrique ou même en Europe, démontre quelque chose qui est en fait plus général de trop de composés chimiques dans nos assiettes.
De la facilité aussi, effectivement, on estime que ce sera plus simple et tout cela de mettre cela dans une recette, parce que maintenant on va plus aussi avec l'avancée donc des process et puis de tout ce qu'on peut proposer, de pouvoir avoir des éléments pratiques, mettre dans l'eau et le plat doit être prêt. Mais oui, c'est une évolution et là elle est bien, mais il faut qu'on ait ça, mais qu'on ait des produits de santé. Parce qu'il faut soigner son organisme quand même, hein, ne pas consommer des produits qui sont dangereux pour la santé. Parce que j'estime qu'on le paye vraiment très très cher après quand on consomme des produits qui ne sont pas sains. Et surtout sur l'Afrique quand même, qui est quand même un environnement encore où on a la possibilité d'engranger et de rectifier ces principes alimentaires. Vous savez que dans certains pays, bon, peut-être comme le Cameroun, qui a une autosuffisance alimentaire, qui cultive beaucoup plus la production qui vend un petit peu au Tchad, au Centrafrique, au Gabon, et même dans d'autres pays qui ont trait à, qui luttent contre la famine ou qui ont des problèmes de famine, dans les pays africains, on a la capacité de faire des surproductions pour ces pays-là. Mais il faut, d'une manière intelligente, arriver à restaurer la qualité des recettes traditionnelles, la qualité de comment est-ce qu'on était fait en train de faire. Parce qu'un plat traditionnel, un plat qui était fait dans les années 20, il n'y avait pas de cube dedans. Donc j'estime que, pour ma part, quand on met un produit chimique dans une recette, la recette n'est plus la même, c'est évident. Donc ce n'est plus, même si elle a un goût, elle n'est plus ce qu'elle était. Et à partir du moment où on ouvre ce pan, cette boîte de Pandore à l'envers, de pouvoir ajouter quelque chose qui n'était pas dans une recette pratique, on va vers une dénaturation pratique et on détruit petit à petit un patrimoine qui est supposé être préservé. Voilà.
Et alors, du coup, pour essayer d'un peu de penser à l'inverse, les gens qui utiliseraient trop de Cubor, comment ils pourraient revenir en arrière? Et je ne sais pas, dans certaines recettes, par exemple. Moi, j'avais vu une vidéo sur YouTube d'une recette de poulet yassa, et la personne disait, évidemment, le Cubor, parce que c'est comme ça qu'on fait la tradition. Et
le poulet est très bon. La volaille est très très bonne. Le poulet qui est là-bas, le poulet il est élevé au grain, qui court, ils appellent poulet bicyclette en Afrique, qui court tout seul dans tous les sens. C'est pas des poulets qui sont produits dans des batteries sans lumière ou dans des endroits où extrêmement effrayants, parce que souvent on a su des marchés maintenant dans toute l'Afrique, on a des produits qui arrivent, on sait même pas d'où ils viennent. Des produits surgelés, congelés, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait même pas comment ces volailles ont été produites en batterie. Et ces produits simples, ils ont leur goût. Ils ont leur goût. Moi, j'ai grandi, je voyais ma grand-mère cuisiner, elle ne mettait pas ces cubes-là, jamais. Et même en recherchant ce type de madeleine de Proust pour avoir ces goûts traditionnels, ces goûts simples, c'est une manière, en utilisant ces cubes-là, d'aseptiser le palais, mais d'aseptiser avec d'une manière chimique. Et c'est extrêmement dangereux pour la culture, moi, je pense. Parce que ça dénature. Il faut déconstruire le principe des recettes et déconstruire cette mentalité de pouvoir essayer de... Je ne dis pas que c'est mauvais a fortiori, mais j'estime qu'il y a des compagnies qui font des substrats alimentaires comme cela, mais d'une manière légale, avec des produits qui sont des produits de qualité, des produits sains, etc. Mais il faut vraiment j'attire l'attention sur ceux qui utilisent et tout ce qui est extrêmement chimique dedans, parce que il en sort tout le temps, il en sort des cubes halal, mais il y en a dans notre tout. Depuis, c'est tellement, et on n'a vraiment pas besoin, on a tellement d'épices, ça c'est bien. On a beaucoup d'épices en Afrique, que ce soit même en Inde, qu'est-ce que les cubes vont faire dans la cuisine indienne? Mais on crée déjà des cubes pour eux. Alors qu'ils n'utilisent pas au départ les cubes, les Indiens, quand ils cuisinent la cuisine indienne. Parce qu'ils ont déjà des épices qui sont vraiment riches et marquées et tout ça, etc. Dans la cuisine aussi, par exemple, la cuisine marocaine n'utilise pas tellement de cubes, hein, ils ne mettent pas. Normalement, ils ne mettent pas. Donc, ils mettent du sel, ils ont des épices, des herbes, ils ont une cuisine beaucoup plus saine. Mais c'est cet appel quand même que moi je lance généralement pour préserver le patrimoine culinaire et ne pas le transgresser. On peut toujours, parce que ça, c'était comme ça avant. Donc, même si on doit utiliser ces cubes, utilisons des cubes qui sont des cubes de qualité. Et régulièrement, en expliquant les dangers quand même d'utilisation pratique, comme on fait maintenant toutes les campagnes sur les cigarettes.
Oui, il serait qu'un cube ne doit pas remplacer sans épices, quoi. On doit essayer plutôt de s'intéresser aux épices qui...
Mais ce qui est logique... Ce qui est logique, on a des épices qui sont saines, donc qu'on peut remplacer par cela. L'oignon est un flavonoïde qui nettoie un peu les artères et puis qui est vraiment très bon pour la santé. Quand vous faites une compotée d'oignon réduction avec un tout petit peu d'huile, vous avez une purée qui est légèrement sucrée, qui donne quelque chose qui est bien en confit, qui sur un sucre de viande va donner cette transition gustative légèrement caramélisée et salée avec la petite touche d'amertume qui est nécessaire à ce qu'on... Mais c'est ça, mais c'est comme ça qu'on travaillait avant, c'est comme ça qu'on a toujours cuisiné, en mettant le temps, utilisant non les produits. Donc les légumes apportent donc aussi cette saveur incroyable, et les viandes en elles-mêmes, que ce soit les poissons, les crustacés, ont déjà suffisamment de saveur pour pouvoir estimer, rajouter donc des tonnes de saveur comme cela. Et surtout, rajouter des saveurs chimiques dans les produits, je trouve que moi c'est une aberration.
Merci à Christian Abegan qui a sorti un livre sur la cuisine africaine, Le patrimoine culinaire africain. Maintenant, grâce à lui, on espère que vous allez y aller mollo sur les cubes et que vous allez privilégier les bonnes épices. Merci aussi à Samuel et Sébastien de chez Bu, on rappelle bubouillon.fr. Toutes les infos et les adresses évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesecoutes.fr/bouffon, c'est un peu compliqué mais on s'y habitue, et aussi sur notre carte Mapster avec tout un tas d'autres adresses. On est aussi sur Twitter, @bouffonne, et puis c'est pareil sur Instagram. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes que j'anime moi, Guillaume Madison, qui est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière Boutique. Laura Cuissard s'occupe de la production et de la coordination, et la prise de son a été faite par Marine Rowe et Charles De Cilia. Parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire parce que moi, personnellement, j'adore vous lire. Et on se dit à la semaine prochaine.